Bienvenue au balado des Indes Québec. Je suis Bertrand Lirette, conseiller expérience client chez IA Groupe Financier et je suis avec
Milan Laroche, associée chez Sigmund.
Aujourd'hui, on reçoit Patrice Lauriston, UX designer ex-Googler. Aujourd'hui, ce qui m'a marqué, je pense que les gens au Québec sont souvent limités par la barrière de la langue et qui ont peut-être voient un peu l'enjeu de travailler dans une autre langue à l'extérieur du pays, donc l'anglais la plupart du temps. Je pense que Patrice nous a rassuré un peu là-dessus. Je vous laisse découvrir qu'est-ce qu'il avait à dire sur ce sujet-là. Et toi, Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué?
Ben, j'ai trouvé en Patrice un gars qui suit ses passions. On l'a vu avec son parcours atypique d'archiviste à designer. Je vous laisse découvrir dans l'entrevue comment ça s'est passé, mais en un seul claquement de doigts, il y a eu un changement de carrière assez drastique. Donc, je salue son courage.
Sur ce, bonne écoute. Salut Patrice, comment ça va?
Salut Bertrand, ça va super bien. Salut Mylène.
Salut!
C'est cool, Jason. On pose la même question qu'on pose à chaque fois, dans le fond. On essaie toujours de savoir un peu qui tu es. Mais premièrement, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui a marqué ta journée? On veut te connaître un petit peu.
Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de cuisine. Donc, j'ai concocté un pain de viande avec des pommes de terre en purée ou de la purée de pommes de terre. Donc,
okay. Très réconfortant avec la météo.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un goût pour la cuisine? C'est quelque chose que tu travailles pas mal? Ou...
Non, en fait, c'est juste parce que j'ai plus de temps de ces temps-ci, donc je m'occupe.
OK, c'est bon. Un intérêt pour la cuisine. On va garder ça en tête tout le long du parcours. Justement, parle-nous donc un petit peu de ta jeunesse. À toi de voir si tu pars du primaire ou du secondaire. D'où est-ce que tu viens? Parle-nous de toi.
Oui, bien sûr. En fait, je pensais à ça. Je suis né à Montréal, je suis né à Sainte-Justine, dans le fond, et puis la majeure partie de ma jeunesse, même si j'ai grandi à Laval, j'ai comme passé dans le coin du quartier Côte-des-Neiges. C'est là que j'ai été à l'université, puis c'est là que j'ai été au secondaire aussi. Si tu regardes Google Maps, je pense que mon école secondaire est située genre une rue après mon université. Donc, J'ai grandi à Montréal pas mal toute ma vie. Au secondaire, j'allais dans une école qui s'appelle Jean Brébeuf. Puis, c'est un petit peu là, si tu veux, que j'ai commencé à découvrir ou à essayer de découvrir ce qui m'intéressait dans la vie. Donc, je te dirais que si tu me demandes de où est-ce que je viens, je pense que je suis un petit gars de Montréal, de Laval, qui a été au secondaire à l'école. Au collège
Jean de Brébeuf. Ouais. Cool. Moi, je viens de Québec. Mylène vient de Québec. Je ne sais pas si tu connais, Mylène, le collège Jean de Brébeuf.
Ben, je l'ai noté sur mon petit post-it parce que mon chum vient de Laval aussi pour savoir si c'est cet endroit-là que sa sœur allait à l'école. Donc, bref. Fait que, un petit peu, je connais la poutine chez Girard, puis c'est pas mal ça.
On doit passer plus de temps tous ensemble à Montréal pour que je vous montre quelques bons endroits.
Cool. Ouais. Parce que moi, je ne connaissais pas ça. Puis là, j'ai comme tapé sur Wikipédia pour voir c'était quoi ce collège-là. Puis là, j'ai vu que comme les deux Trudeau sont passés là, c'était un des meilleurs collèges du Canada. Puis là, je me dis, oh, crif, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Qu'est-ce que tu fais, Patrice?
Ben, en fait, c'est drôle que tu mentionnes que les deux Trudeau sont passés par là-bas parce que oui, en effet, à chaque année, ils prenaient des photos définissants et puis la photo définissant se retrouvait dans les corridors l'année d'après. Si tu veux. Donc, quand tu marchais dans les corridors, tu avais comme les photos des anciennes années puis tu pouvais voir toutes les grandes personnes de ce monde qui sont passées par cette école-là. C'est une école qui a plus ou moins bonne réputation. Puis pourquoi je me suis ramassé là-bas, c'est à cause de mon passé d'immigrant. Si tu veux, je suis un immigrant d'origine haïtienne. Comme je te dis, je suis né à Montréal. Je suis la première génération de ma famille à être née au Canada. Mes parents sont originaires d'Haïti, comme beaucoup de personnes de race noire au Québec, à Montréal. Et puis, je pense que dans la communauté ou en tant qu'immigrant, je pense que tu as des attentes en tant que parent immigrant que tes enfants essaient de performer à un niveau supérieur, si tu veux. Donc, Je pense que pour mes parents, ils voulaient vraiment essayer de m'envoyer dans la meilleure école qu'ils pouvaient m'envoyer, mais c'était aussi mon choix, si tu veux. Ils m'ont pas forcé non plus à aller là-bas, mais je savais que j'avais comme fallait que j'aille dans une école plus ou moins un collège privé, donc ouais, un petit peu c'est comme ça que je me suis avancé là-bas.
Cool. Puis au niveau des programmes de cette école-là, c'est souvent des décors en option, des trucs de même. Est-ce qu'il y avait un espèce de profil design ou art qui a déjà commencé à t'intéresser à ce niveau-là?
Plus ou moins, je dirais que au secondaire, on était très focusé plus performant, je dirais, qu'autre chose. Donc, on avait des cours de maths avancés ou des cours de français avancés. On avait des cours d'art, effectivement, mais c'était plus des cours d'art qu'on appelait plastique, si tu veux, des cours d'art plus réguliers. Je pense qu'on a tous eu à l'école secondaire, donc. Je pense que la passion pour des trucs artistiques est arrivée un petit peu plus tard dans mon parcours.
OK. Puis justement, après le secondaire, t'avais-tu déjà une idée où est-ce que tu t'en allais? C'était quoi tes choix de qu'est-ce qui t'intéressait?
Ouais, ben en fait, après le secondaire, juste pour continuer ce que je te disais, je pense que je me suis inscrit plus ou moins sans y penser en sciences pures, dans le fond, les sciences que tu fais pour aller en ingénierie. Donc, la bio au cégep, la chimie au cégep et la physique. Je pense que j'ai comme plus ou moins frappé un mur où genre, je m'intéressais plus ou moins. Donc, c'est plus à partir de l'école collégiale que j'ai commencé à regarder autre chose. Puis, je pense qu'en tant que personne, j'avais comme une attirance naturelle vers le cinéma. Et puis, à mon école, au cégep, l'école collégiale à laquelle j'étais, il offrait cette option. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis dirigé plus vers le domaine des arts.
OK. Fait qu'on parle de cinéma à ce moment-là. Ça, c'était à quel collège, ça?
Au collégial, j'étais à un collège qui s'appelle André Grasset, qui est un collège à Montréal, tu sais, qui est comme un cégep, dans le fond, qui offre pas mal les programmes que tu as au cégep, ou du moins les troncs plus communs comme sciences pures, sciences humaines, puis art aussi.
OK. Puis ton incursion au niveau du cinéma, je suppose que tu avais un intérêt pour les films en général. D'où est-ce que ça venait, cette espèce d'intérêt-là?
C'est une autre question. Je ne sais pas si genre, je pourrais dire exactement de où est-ce que ça venait, mais j'ai toujours été fasciné par le cinéma. Je pense que en tant qu'adolescent, c'était genre l'activité de choix. Je ne sais pas si c'était un truc de Montréal ou un truc de ma génération, mais je pense que dès que j'ai pu sortir genre, par moi-même, le cinéma, c'était comme une de ces destinations où est-ce que tu pouvais aller justement passer du temps. Avec des amis qui n'étaient pas à la maison. Donc, peut-être que ça vient de là-bas, mais juste les films en général, je rappelle qu'on a été, genre, en tant qu'enfant à Disney. Puis, je pense que la magie de Disney ou, dans le fond, la magie de
Ouais.
faire des films aussi, genre, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant.
Ouais, c'est drôle que tu mentionnes Disney parce que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais allé à Disney, puis on est allé à, je pense que c'était Universal Studios, où est-ce que tu avais comme des espèces de places, puis là, tu avais comme Jaws, puis Indiana Jones, puis là, tu vivais ça, puis c'était vraiment intense. J'ai vraiment des bons souvenirs là-dessus, puis j'ai hâte d'y retourner avec mes enfants.
Ouais, tout à fait, exactement.
C'est cool. Donc là, tu avances dans le cinéma. Comment tu as vécu ça, les cours de cinéma? C'était quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu as vécu?
Au collégial, c'était très intéressant parce que c'était plus la technique comment faire des films. Donc, notre projet final au collégial pour le tronc d'études en cinéma, c'était de faire un court-métrage. Donc, on partait après avec une caméra à 5, puis on avait un film à rendre à notre professeur. Donc, ça, c'était super intéressant. J'ai fait comme 2 ans de ça, puis après, à l'université, je m'étais dit, OK, ben j'aime ça, je vais essayer de continuer. Sauf que je me suis ramassé à l'Université de Montréal, puis à l'Université de Montréal. C'est comme l'autre côté de la médaille, c'est des études cinématographiques. Donc, tu apprends beaucoup plus la théorie et l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma, beaucoup plus que la technique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune caméra qui est là. C'est vraiment des cours qui sont en classe, puis tu passes à travers les différentes époques du film muet jusqu'à l'arrivée du son dans le cinéma et blablabla.
Puis toi, dans le fond, c'est pas ça vraiment que tu recherchais, c'est ça que je comprends?
Pas autant que l'aspect pratique, l'aspect technique, si tu veux. Je pense que y a comme un côté artisan, si tu veux, à faire un film, que ce soit au niveau du décor, le construire, des costumes, si tu veux, un côté très expression artistique, tandis que être assis en classe, c'était vraiment beaucoup plus théorique, si tu veux. Donc oui, ça m'intéressait, mais c'était pas aussi motivant, si tu veux, pour moi, que de faire le côté plus pratique. Donc.
OK. Fait que si on te lit entre les lignes, puis si on se parle aujourd'hui, c'est probablement pas que tu as fini en cinéma. Qu'est-ce qui est arrivé après?
ben en fait, après avoir fait 2 ans à l'université en cinéma, pour finir mon bac, j'étais en études d'information numérique. Puis à la fin de mon bac en études d'information numérique, j'ai comme eu un cours qui nous ont offert une conférence sur, ou donc un conférencier invité sur l'ergonomie d'interface. Donc, il y a une dame qui est venue, je l'appelle Isabelle, cette dame, qui est venue faire un exposé de 30 à 45 minutes sur l'ergonomie d'interface que je ne connaissais pas vraiment à l'époque. Puis, ça m'a comme marqué ou touché, ou dans le fond, ça m'a comme intéressé presque de façon instantanée, si tu veux. Genre, c'est comme, ah, c'est cool ça. J'aimerais en savoir plus, mais c'est un petit peu comme ça que je me suis rapproché du domaine du design.
J'ai une question pour toi. Tu dis à ton bac gestion d'information numérique, qu'est-ce que ça annonce ça comme carrière, mettons, après, comme poste? J'ai jamais entendu ce nom de programme.
C'est super une bonne question, c'est drôle. Faudrait que tu demandes au responsable du programme.
Non, mais quand t'as choisi ça, mettons, là, tu t'attendais à revenir à faire quoi?
Ben, pour être. Okay. Donc, il y a deux réponses. La vraie réponse, c'est un programme qui faisait partie de l'école de vidéo d'économie. Donc, c'est comme une introduction, si tu veux, à tout ce qui était numérique. Puis sur l'information numérique. Donc, que ça soit au niveau des supports, si tu veux. Donc, et ça, c'était un CD, ça, c'est une disquette. Autant que, et ça, c'est Microsoft Word, voici comment tu l'utilises. Et ça, c'est Excel, voici comment tu l'utilises de façon plus formelle, si tu veux. Puis, couplé avec comment gérer des livres. En bibliothèque avec des systèmes digitales, genre passer dans des fiches qu'on avait justement à quelque chose d'autre. Il y a des systèmes de classification. Blablabla. Donc, ça, c'est la
Quasiment
réponse.
archivistique,
Oui,
ça touche un peu.
c'est exactement la même école qui fait les cours d'archives aussi.
OK.
Cool. Puis là, juste pour situer les gens, on était au milieu, là, à peu près 2005-2007, quand tu parlais de, tu sais, les cours de l'ergonomie d'interface au Québec. Je pense que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à voir ça. En tout cas, moi, j'ai vu ça apparaître. Puis avec les discussions qu'on a eues d'autres personnes, ça commençait aussi. Tu vois cet exposé oral-là, tu dis, c'est quoi l'ergonomie d'interface? Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Tu veux te réorienter ou qu'est-ce qui se passe?
J'ai fait mon bac, et puis pour faire un sujet que Mylène vient de me poser, je savais pas trop quoi faire avec mon bac en information numérique, si tu veux. Donc, je me suis comme dirigé vers la maîtrise pour en apprendre plus, puis en espérant, en sachant aussi que ça pouvait éventuellement déboucher vers un poste ou quelque chose plus en ergonomie d'interface ou en expérience d'utilisateur. Je pense que Après justement avoir eu comme l'information de la conférence, je me suis intéressé, je me suis renseigné à savoir justement comment est-ce que je pouvais devenir un ergonome ou un expert en expérience utilisateur. Puis j'ai trouvé mon chemin un petit peu vers la maîtrise en me disant que c'est une formation qui pourrait m'être éventuellement utile dans ce domaine.
OK. Puis si on glisse à ce moment-là vers les stages puis les expériences que tu as eues dans ce domaine-là, qui était comme l'ergonomie de l'interface, peux-tu nous en parler un peu?
Oui, c'est sûr. Donc, à la fin de ma maîtrise, 2 ans après, j'ai eu la chance de recontacter cette conférencière, puis justement de lui demander s'il y avait des possibilités de faire un stage, d'avoir de l'expérience dans le domaine, d'expérience plus professionnelle. Elle travaillait dans le temps dans une entreprise, dans une agence de marketing à Montréal qui s'appelait César. Donc, elle m'a dit, contacte mon patron. Puis, discute de ça avec lui. J'ai contacté son patron, puis décidé de m'accepter comme stagiaire pendant un stage de 4 mois, si tu veux, qui n'était pas rémunéré pour pouvoir voir comment ça se passait en entreprise privée, si tu veux.
OK. Fait que là, c'est tes premiers pas, dans le fond, dans un poste, mettons, UX, on va appeler ça, c'était peut-être pas le nom précis, mais si tu commençais son travail-là, comment ça s'est passé, toi, l'espèce de pont de archiviste, libraire ou je ne sais quoi, à UX, là?
Ben, c'est super drôle que tu me poses ça comme question. Je pense que tout au long de mes 2 années d'études, j'étais genre l'exception qui confirmait la règle à travers mon groupe, à travers mon groupe de collègues universitaires. Je pense que je leur disais, puis eux, ils savaient, puis c'était très clair que je voulais pas devenir archiviste.
Okay.
Puis aussi, il y avait des options. Genre, c'est évidemment, à l'université, tu choisis tes cours dans le corpus. Donc, je me suis organisé aussi pour prendre les cours qui étaient les plus pertinents. Donc, arrivant en entreprise, il y a quand même eu une période d'adaptation, je pense, à l'école. Je pense que c'est comme ça dans la plupart des domaines. Tu apprends la théorie, mais il y a quand même une différence entre la théorie et
Ouais.
la pratique, si tu veux. Donc, aller avec mon maître, ma maître de stage, j'entends Julie, chez les clients, puis comprendre pourquoi ils avaient engagé une agence de marketing, puis à quoi ils s'attendaient comme livrable. Genre, je pense que j'ai plus fait ça en entreprise que à l'école.
Ouais, puis je pense que expliquer ce qu'on fait, ça existe encore en 2023, pour le meilleur, pour le pire. Tu as été chanceux un peu, je dirais, dans ton parcours, parce que tu as croisé un certain Alain Robillard-Bastien, qu'on salue par la bande.
Ouais, ben oui, tout à fait. En fait, c'est Alain qui était chef d'équipe chez César, qui était comme responsable de mon stage, qui a décidé de me donner un stage, qui est devenu depuis mon mentor et un grand ami aussi que je salue bien bas.
C'est cool, ouais, je sais qu'il écoute des fois les balades. On va voir s'il va se rendre jusqu'à ton épisode. Là, tu travaillais dans le fond chez César, qui a été acquis par Bell, une transition, vie de campus. Tu m'avais dit que c'était un peu spécial de changer de façon de travailler avec du open space à ce moment-là. On était au début 2010 à peu près, dans ce temps-là.
Ouais, c'était vraiment intéressant, si tu veux, parce que le domaine des technologies commençait à être de plus en plus dominant. Donc, il y avait déjà les compagnies comme Yahoo qui commençaient justement à avoir une forte partie du marché de l'Internet, si tu veux. Si tu te rappelles, Yahoo, c'était comme un moteur de recherche.
Ouais.
Donc, ces compagnies-là, étant situées en Californie, ils avaient aussi développé une notion de campus, donc d'avoir des employés qui sont comme qui presque ils vivent, si tu veux, sur les terrains de l'entreprise. Donc, les gyms, les cafétérias, la
Ouais.
bouffe plus ou moins gratuite, je pense que ça a commencé un petit peu de là. Puis je pense que ça s'est répandu aussi à d'autres compagnies. Étant chez Bell, Bell qui était une multinationale qui a quand même beaucoup d'employés, je pense qu'ils ont aussi vu ça aller, puis ça faisait beaucoup de sens de regrouper leurs employés dans des campus. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a un à Vancouver, à Toronto, puis à Montréal. On a été chez César, un des premiers groupes d'employés, donc un des premiers groupes d'employés qui ont été déménagés de leur bureau pour aller habiter ces locaux-là. Donc, l'expérience était complètement différente juste de ses premiers dans un campus complètement vide. On se
Ben
promenait,
ouais.
il y avait des corridors
Ouais.
de conseils. Il n'y avait pas encore personne. Tu sais, genre, ça prend du temps de bouger des. Donc, ça, c'était très drôle. Mais sinon, je pense que c'est peut-être Alain qui devrait dire ça, mais faisant partie de Bell, ça donnait à l'équipe des reins un petit peu plus forts, un budget un petit peu plus fort, puis une reconnaissance un petit peu plus nationale. On avait des collègues qui étaient à Toronto, surtout, puis je pense que Alain travaillait à avoir des collègues qui étaient à Vancouver. Donc, ça a quand même changé un petit peu la dynamique, mais surtout, je te dirais, au point de vue des ressources qu'on avait pour faire ce qu'on voulait faire, le domaine était très, très jeune, tu vois, genre, donc, je pense qu'on avait réussi à construire un lab à Montréal, un lab de tests, de faire des tests d'utilisateurs. On en avait un à Toronto aussi qui était vraiment génial. Et puis, je pense qu'on faisait la même chose à Vancouver. Donc, ça, c'était quand même un temps assez intéressant d'être chez Bell pendant cette époque-là.
OK. Puis tout ça n'a pas réussi à te retenir au Québec. Après ça, tu t'es dit, moi, je m'en vais d'ici. Il fait trop froid.
Ouais, exactement. Je pense que dans le fond de ma tête, pendant tout ce temps-là, genre depuis que j'avais découvert l'expérience utilisateur, je pense que j'ai toujours eu une envie d'habiter au soleil ou de vivre en Californie. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais bref, j'avais comme ça dans la tête. Puis dès que j'ai pu, dès que j'avais assez d'expérience. J'ai comme attendu un an exactement après avoir eu mon premier emploi parce qu'ils demandaient dans la plupart des offres, je pense, un an
Ouais.
d'expérience. J'ai commencé à faire application à l'étranger, aux États-Unis, principalement dans la vallée de San Francisco, dans la Silicon Valley, pour voir justement c'était quoi les possibilités. J'étais très innocent et naïf. J'ai juste envoyé mon CV, genre, tu sais, genre, j'ai repoussé l'application, j'ai envoyé mon CV, de la d'introduction jusqu'à temps que ça fonctionne. Puis à un moment donné, ça a pas fonctionné. Donc, j'ai eu la chance, si tu veux, d'aller là-bas.
OK. Puis là, tu recontactes justement la personne qui t'avait vu en exposé oral, qui était déjà en Californie. Tu te ramasses chez Electronic Arts en tant que UX.
Ouais, ben en fait, Isabelle, qui était la personne, dans le fond, que j'avais rencontrée dans le cadre de mes études universitaires, était ergonome chez César. Donc, on est devenus collègues une fois que j'ai fini mes études universitaires. Et puis, elle, 2 ou 3 mois après que je me sois, après que j'ai joint l'équipe, elle est déménagée en Californie. Donc, c'était comme une motivation.
OK.
Une motivation de plus. Comme moi, je suis déménagé en Californie, c'est la première personne à qui j'ai c'est la première personne à qui j'ai que j'ai contacté parce que je savais que elle habitait avant à Montréal, on était collègues, puis qu'elle habitait maintenant en Californie, donc c'était comme évident. Puis c'était super cool. On est comme devenu un petit peu coloc en Californie pendant quelques mois. C'était génial au niveau de l'adaptation, si tu veux, parce que je connaissais personne nécessairement là-bas. Puis je me suis ramassé avec une coloc que je pouvais parler français avec et tout. Donc, c'était vraiment amplifié. Donc, c'était vraiment cool.
Tu disais tantôt que tu étais très naïf dans ta démarche, puis que tu envoyais des CV un peu ici et là. Est-ce que tu as frappé un mur quand tu es arrivé là-bas ou ça, ça a bien fonctionné avec ton contact, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris quand tu es arrivé finalement? Ta naïveté t'a-t-elle nuit?
C'est une bonne question. Je sais pas si. Je sais pas comment répondre à cette question-là. Je pense qu'il y a eu des. Je pense que ça a aidé et que ça nuit aussi. Ça m'a aidé justement parce que j'ai pu déménager. Ça m'a nuit un petit peu parce que j'ai pas pensé à comme après. Dans le temps, j'ai trouvé un contrat, si tu veux. Donc, je savais qu'après la période du contrat, je serais comme. Ça allait comme presque à refaire, mais je veux dire qu'étant déjà étant là-bas, ça allait probablement être plus facile, si tu veux. Donc, je pense qu'il y a eu du gain et il y a eu du mal, mais je pense pas que je changerais rien par rapport à ma démarche à recommencer. Par contre, je pense que l'expérience que j'ai acquise en valait définitivement le trou par lequel je suis passé.
Je sais qu'il y a sûrement probablement plusieurs personnes qui veulent justement travailler aux États-Unis. La barrière de la langue est une réalité qu'on a au Québec. Je ne sais pas toi comment tu as vécu la langue. Je sais qu'à Montréal, c'est beaucoup plus bilingue, dans le fond, français-anglais. Quelles étaient tes attentes par rapport à aller travailler? Parce que là, ça devait être juste en anglais chez EA et toutes ces affaires-là. Là.
Ouais, c'est définitivement quelque chose qui m'est passé par la tête. Je pense que. En quittant Montréal, je n'étais vraiment pas aussi bilingue que je suis aujourd'hui. Je pense que, justement, en parlant de naïveté, j'étais comme, ah, well, genre, they're gonna deal with it. Genre, ils vont juste, genre, je vais aller là-bas avec mon accent, puis ils vont s'arranger. Puis je pense que c'est un petit peu l'attitude que j'ai eue. Ça aussi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que à San Francisco, il y avait les gens viennent aussi de plusieurs parties dans le monde. Mm-hmm. Donc, ouais. Il y avait moins cette attente à ce que tu aies un anglais américain parfait. Je pense ouais. que il y avait quand même assez une ouverture d'esprit qui faisait que. Ce qui était important, ce qui était important dans le fond, c'est le travail. Puis je pense que j'étais aussi chanceux du fait que Electronic Arts y ait des bureaux à Montréal, donc je n'étais pas le premier à avoir mon accent dans la compagnie. Donc je pense que c'est genre tout ça ensemble sur le fait que ce n'était pas si grave que ça, mais. Puis je pense que le meilleur moyen d'apprendre une langue, je pense que c'était vraiment d'être immersé dans l'environnement. Puis je pense que depuis là, je me suis. J'espère que je me suis quand même un petit peu amélioré.
Après 10 ans, j'espère pour toi. Ben, c'est cool parce que tu sais, moi, je le vois un peu comme une grosse barrière. Puis c'est sûr que tu sais, ça peut être dur pour les gens, mais quand tu vis dans le milieu. Puis tu fais du social avec des gens, tu commences à sortir avec des gens en anglais, puis tu parles en dehors du travail aussi. Je pense que ça doit aider beaucoup.
Ouais, beaucoup. Ce qui est cool aussi en étant expat, c'est que tu rencontres d'autres expatriés aussi. Donc, des gens qui viennent de Montréal, mais des gens qui viennent de Toronto, de Vancouver, d'autres Canadiens, d'autres Haïtiens. Donc, tu fais quand même des liens autres qu'à travers la langue. C'est vraiment assez cool.
OK, cool. Tu fais le saut chez Huge Inc. après, qui est quand même une grosse boîte aux États-Unis aussi. C'est quoi le genre de switch que tu avais au niveau du travail dans ton rôle?
Ce qui était cool chez Huge, c'est que je me retrouvais encore en agence. L'expérience de chez César m'avait vraiment marqué au point de vue de la possibilité d'être un consultant, puis de vraiment travailler avec une entreprise pour développer un produit. J'ai retrouvé le même type d'expérience chez Huge parce qu'on était une agence. Et puis une agence aux États-Unis, ça faisait que le type de client qu'on attirait est encore un petit peu plus gros. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Fox ou avec FX. Donc, okay. J'ai fait des affaires, je pense que J'aurais pas nécessairement pu, peut-être que j'aurais pu les faire aussi à Montréal, mais je trouve que, ben, étant donné que j'étais déjà là-bas, ça faisait beaucoup de sens. Donc, me retrouver en agence, c'était un petit peu la raison pourquoi, genre, j'ai été là-bas.
Si je recule un peu, parce que tu sais, je sais pas si c'est une espèce de perception de, tu sais, les gens veulent partir du Québec pour aller peut-être plus dans les grosses compagnies. Qu'est-ce qui t'attire ou qui t'amène à vouloir t'en aller, mettons?
Je voulais voir à quel point je pouvais aller loin dans mon domaine, puis je me disais que les gens les plus, dans le fond, les têtes ou la communauté, si tu veux, UX la plus avancée, était probablement dans la vallée de San Francisco. Donc, c'était vraiment ce sens de vouloir faire partie comme de la communauté en tant que telle. Quand je suis déménagé, tu vas encore, non, tu vas encore, je sais pas si tu peux encore aujourd'hui, mais il y avait comme Jacob Nielsen qui donnait des entrevues, puis tu pouvais encore aller, genre là, tu payais 20$, puis genre tu t'assoyais, puis tu m'entendais parler, genre pendant 1 heure de genre l'expérience utilisateur. Donc, ce type d'expérience-là, genre, c'est vraiment ce qui m'attirait, puis je trouvais ça un petit peu plus difficile d'avoir accès à cette communauté-là, à Montréal ou au Québec.
C'est encore difficile aujourd'hui, je pense, même si on essaye fort de notre côté. Mais c'est vrai, tu sais, je comprends ce que tu veux dire aussi, puis je pense que ça, tu sais, aller voir la communauté là-bas, c'est sûr que c'est un autre niveau. Je ne sais pas si cette réalité-là existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es assez plugué encore au Québec ou avec des gens qui sont dans le milieu pour dire que est-ce que ça semble encore nécessaire en 2023, mettons, de sortir du Québec pour atteindre ces niveaux-là. T'as-tu une opinion là-dessus?
Je pense que ce qui est arrivé, genre, tu peux travailler presque pour n'importe quelle entreprise dans n'importe quel bout du monde, si tu veux. Je pense que les entreprises sont devenues beaucoup plus internationales. Et puis, le domaine dans lequel on travaille, justement, puis juste, je pense, la démocratisation de l'information, avoir des plateformes, est-ce que tu peux juste taper, apprends-moi à faire ça, genre, puis avoir des millions de résultats fait que non, peut-être que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais une fois, ça dépend vraiment de ce que tu recherches, je pense. Je suis sûr que, par exemple, tu sais, genre, pour te donner un exemple vraiment concret, si jamais tu veux faire des interfaces pour automobiles, genre, il y a beaucoup de postes qui sont à Détroit, puis il y a beaucoup de postes qui sont en Allemagne, si tu veux, parce que c'est là que les compagnies sont situées, tu sais, ça fait que dépendamment de ce que tu veux faire, je pense que c'est encore valide que peut-être que tu dois t'exporter où est-ce que ça se fait, ça dépend vraiment du domaine qui t'intéresse, mais au moins faire de l'expérience utilisateur, je pense que tu peux en faire au Québec, à Montréal aussi.
Ouais, ben, peut-être que justement la généralité de la chose est plus facile à atteindre de par l'ouverture sur le monde, mais comme tu parles, si tu vas aller chercher une niche, mettons, dashboard design dans les véhicules, mettons, autonomes, ben là, c'est sûr que ça va être plus dur de trouver ça en ligne. Je pense que si tu vas chercher la communauté, où est-ce qu'elle est à ce moment-là? Saute à Live Nation, toujours en Californie, Los Angeles cette fois-là, toujours dans le même genre de interaction designer?
Ouais, toujours dans le même genre d'interaction, de designer d'interaction. J'étais à Los Angeles, lui, j'étais à Los Angeles. Live Nation, ce qui était bien, c'est en fait. Je pense que je cherchais un petit peu plus de stabilité d'emploi à la Nation. Ticketmaster, c'était comme une grande entreprise, si tu veux, tandis que Huge étant une agence, vraiment, c'était notre prochain client, ou si on allait avoir un prochain client. Chez Ticketmaster, je faisais le même type d'emploi, mais je le faisais à l'interne en tant que ressource interne. Et puis, on le faisait sur des logiciels qui étaient dédiés plus à gérer des événements comme des concerts ou des games de sport. Donc, c'est quand même intéressant.
De l'extérieur, Ticketmaster, je vois ça comme un gros outil de booking d'étiquettes. J'ai vraiment la perception que ce genre d'entreprise-là, t'as comme si tu deviens interaction designer dans ce genre d'entreprise-là, tout ce que tu fais, c'est gérer comme des données de place dans un stade, puis that's it, genre, à quel point c'est répétitif, puis c'est.
Pardon. C'est super drôle que tu dis ça parce que c'était vraiment genre ma responsabilité. C'était l'inventaire des tickets, genre dans le sens. Donc, genre, j'avais des collègues qui faisaient d'autres choses, et moi, genre, c'était vraiment ma responsabilité. En fait, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris à comprendre comment une entreprise pouvait justement devenir ou pouvait grossir, si tu veux. Il y a ça. J'ai appris aussi à quel point des systèmes qui étaient développés, genre il y a plusieurs années, genre c'était quoi la mentalité, puis de voir justement le processus, genre de mettre à jour des systèmes que ça fait comme 50 ans qui existent, si tu veux, genre, parce que Ticketmaster avait des terminaux genre dans toute leur salle de spectacle depuis que l'informatique existe. Donc ce côté-là était vraiment cool. Le côté, tu sais, genre gestion d'inventaire en tant que tel, c'était un petit peu moins cool, mais c'est quand même vraiment c'est vraiment intéressant, genre pour un certain temps, d'apprendre genre comment cette industrie-là est fonctionnée.
Mais si ta job, c'était de te concentrer sur l'inventaire des tickets, ça veut dire que des jobs de UX designer, il devait en avoir une tonne spécialisée sur plein d'aspects du processus, mettons. Et ça va être des grosses équipes, là. Je sais, encore moi, je suis sortie de l'université. En tout cas, c'était un gros employeur à Québec, Ticketmaster aussi. Fait qu'est-ce qu'il y avait une certaine cohésion entre les équipes au sein de la grande entreprise? C'est le grand projet Ticketmaster ou c'était plutôt des silos?
Non, tout à fait. Je pense que de la façon dont on était divisé, les grandes lignes, c'est qu'il y avait la moitié de l'équipe qui s'occupait du côté consommateur, donc Ticketmaster.com, si tu veux, qui est une plateforme où est-ce que tout le monde peut aller acheter leurs billets. Puis l'autre côté de l'équipe s'occupait du business to business, donc les relations avec les salles de spectacle et puis les relations aussi avec les organisateurs, les promoteurs et puis les artistes. Il y avait toute une partie de la business qui est juste d'organiser l'événement avant de le mettre en vente, si tu veux. Donc, il y a une partie de notre équipe qui s'organisait ou qui s'occupait strictement de l'organisation. C'est-à-dire que dans quel c'est quoi les dates, où est-ce que tu veux être, à quelle date, combien de dates que tu veux faire, est-ce que ça va être des arénas, est-ce que ça va être des stades. Moi, je m'occupais, genre, une fois que l'événement était mis en vente, si tu veux, genre, il y a une partie, tu dois juste rentrer les données dans le système pour pouvoir justement faire la mise en vente. Puis je pense qu'après aussi, il y a une autre partie comme la réconciliation, une fois que l'événement, ben, il y a l'événement en tant que tel, genre, le soir de l'événement, il faut qu'il se passe certains trucs, genre, faut que tu sois capable de scanner des tickets, genre, donc. Il y a plein de différents points qui demandent justement des interfaces puis qui font appel à des systèmes informatiques.
Je vais te lancer une balle courbe, puis ça se peut que tu n'aies pas de réponse, là, mais tout l'enjeu de UX, de commande en ligne de billets, on l'a vu des dernières années, s'il y a problème de scalpers, toutes ces affaires-là, de les gens qui passent par ce système-là, puis on dirait qu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à trouver une méthode pour que les gens, de façon juste, puissent avoir accès à des billets sans que les revendeurs attaquent les systèmes, toutes ces affaires-là. Est-ce que pendant que tu étais là, parce que c'était autour de 2015, là, plus ou moins 2 années, que tu étais dans ce, est-ce que cet enjeu-là était présent à ce niveau-là, puis est-ce que tu as eu à travailler là-dessus?
C'est une industrie qui est extrêmement complexe. Il faut vraiment que tu creuses ou que tu fasses un petit peu de recherche pour pouvoir comprendre les différents enjeux, si tu veux, de l'industrie. Je pense que ce que tu veux parler, c'est comme le marché secondaire, si tu veux. Donc, tu veux un billet puis un prix, genre. Parce que c'est un petit peu ça, genre, au début, c'est un petit peu ça le modèle d'affaires, c'est que les billets qui étaient le plus proche du stage étaient 20 $, puis ceux qui étaient les plus loin étaient 5 $, si tu veux. Donc, le problème, c'est que tout le monde achetait les billets à 20 $, puis les revendait à 100 $, si tu veux. Donc, ça s'appelle le marché secondaire. Est-ce que j'ai travaillé là-dessus directement? Non, pas vraiment. Ben oui, aussi, parce que c'était le côté plus consommateur, donc les billets étaient déjà en vente. Puis moi, comme je te dis, on travaillait sur genre, la gestion de l'événement en tant que tel. Sauf que ce qu'on faisait au niveau de l'inventaire, c'est qu'on essayait de révolutionner ou dans le fond d'évoluer comment justement tu vendais des billets. C'est-à-dire que si les gens étaient prêts à payer 200 $ pour ce billet-là, genre, parce qu'ils allaient l'acheter un scalper, anyways, ouais. À 200 $, mais c'est de leur donner la chance, je sais pas, d'avoir des enchères sur chaque siège, par exemple, pour que celui qui veut payer. Donc, oui, au niveau de l'inventaire, on faisait des trucs, mais je sais pas qu'est-ce qu'on est rendu depuis ce temps-là. Puis, non, on travaillait pas directement là-dessus parce qu'il y avait toute une équipe qui faisait partie de l'équipe consommateur qui s'occupait de regarder cette problématique de la revente de billets.
OK, je comprends. J'en reviendrai sur un point qu'on avait jasé un peu. Tu es rendu aux États-Unis, tu travailles un peu de plusieurs cultures, plusieurs sortes de gens qui travaillent de partout dans le monde, dans plusieurs compagnies. Au niveau de Ticketmaster, tu as eu à travailler avec des Québécois parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui travaillent dans cette compagnie-là. Peux-tu nous parler un peu de la différence culturelle auquel les gens devraient s'attendre, autant en tant que, mettons que j'ai travaillé toute ma vie au Québec, ben j'ai une façon de voir le travail avec les gens. J'ai pas travaillé avec beaucoup de gens d'autres cultures. Donc, y a-tu des choses que tu pourrais nous amener par rapport à comment mieux faire cette transition-là à travailler avec d'autres cultures, mettons?
C'est une bonne question, mais c'est sûr que tu te poses la question parce que moi aussi, je pourrais te poser la même question parce que ça fait trop longtemps que je suis à l'extérieur du Québec pour savoir comment ça se passe maintenant au Québec. Mais quand je suis déménagé, ce qui m'avait choqué, c'est à quel point il y avait une culture corporative ou une culture un petit peu plus agressive au niveau justement de la vie corporative aux États-Unis. Il y a des gens qui sont vraiment beaucoup plus carriéristes que j'en avais jamais rencontré avant de déménager. Mais je suis sûr que maintenant, peut-être que ça s'est s'est balancé. Je pense que j'avais comme, peut-être que je te naïve, j'avais comme une relation, beaucoup plus de confiance quand j'étais avec mes collègues à Montréal ou au Québec. Je sentais vraiment que je faisais partie d'une équipe. Puis, je sais pas, puis genre, encore une fois, genre, je sais pas si c'est unique ou... À travailler à l'étranger, mais c'était beaucoup plus business. Genre, c'était beaucoup plus genre, on passe aux affaires, puis après, genre, on se parle plus jamais, ou genre, si je peux. Tu sais, genre, je veux pas dire que les gens sont tous genre, méchants ou backstabbers, mais sont définitivement plus carriéristes que ce que j'avais rencontré par avant, si tu veux. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. En entreprise.
Est-ce que tu sens à ce moment-là que aussi les relations sociales hors travail sont plus difficiles à développer que versus ce que tu avais vécu à Montréal?
Je pense que oui, définitivement. Dépendamment de l'environnement dans lequel tu es, je pense pas que c'était comme ça partout. Quand je suis déménagé, je travaillais chez Electronic Arts. Les gens avec qui j'ai travaillé chez Electronic Arts, c'était des gens vraiment cool, puis on sortait ensemble et tout, mais ça dépend vraiment, genre, ça dépend vraiment des origines des gens en tant que soi, si tu veux, genre, donc, mais de façon générale, ouais, je pense que ça influence intimement les relations sociales que tu as avec tes collègues. Tes collègues sont plus tes collègues, je pense.
OK. Prochain saut d'emploi, je ne sais pas si pour toi c'était le Saint-Graal de la job aux États-Unis. Je pense qu'il y en a plusieurs que c'est ça. Interaction Designer chez Google, 2017. Comment tu as fait le saut?
Pendant que j'étais chez Ticketmaster, chez Live Nation, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. Dans le fond, j'étais assis à mon bureau et puis dans mon inbox, j'ai comme eu un email qui était quelque chose comme « Hey from Google », genre « Est-ce que ça tente de venir travailler chez Google ?» Ça, j'étais comme « Ouais, pourquoi pas ?» Puis c'était un recruteur, une recruteuse, une recruteur d'enfant qui, je ne sais pas comment elle était tombée sur mon profil, mais bref, m'avait comme... recruté, puis elle avait commencé à me demander si ça m'intéressait, puis à vraiment me montrer le processus d'emploi, si tu veux. Puis c'est un petit peu comme ça que
Okay.
j'ai commencé ou que je me suis ramassé là-bas.
Puis est-ce que pour toi c'était comme justement le top ou tu voulais aller plus loin encore ou c'était comme j'ai réussi?
C'est une bonne question. Je pense que c'était définitivement genre une étape par laquelle genre je m'étais dit ah ouais ça serait vraiment cool, donc j'ai pas vraiment eu d'hésitation. Si c'était le top, je sais pas, je pense genre, je sais pas si je pensais que c'était le top, mais je sais que je m'attendais à ce que ça soit différent. Donc ça, je
Ok.
pense que c'était vraiment genre ouais, attente numéro un, ce que je me disais. Ouais, étant donné que c'est une compagnie qui est beaucoup plus jeune, j'imagine que la façon dont les choses vont se faire à l'interne va être complètement, complètement différente. Un, puis deux, étant donné que c'est une compagnie, genre, que c'est une compagnie de technologie à la base, genre, ça va être différent d'une compagnie ben, bien sûr, c'est une compagnie de technologie aussi à la base, mais genre, qui
Ouais.
fait la technologie dans l'univers du spectacle, si tu veux. Donc, ça va être différent de Ticketmaster, puis de Bell aussi. Je pense que Bell, c'était vraiment une compagnie ancienne. Donc, des attentes à ce qu'une nouvelle compagnie soit capable de bouger de façon plus rapide. Je pense que c'est ça que j'avais dans la tête.
OK. Puis là, deux étapes. Première étape, tu vas chez Google, tu as plein d'attentes. Tu te fais une idée dans ta tête sur ça va être quoi. Je veux que tu me parles de ça. Puis après ça, que tu me parles la réalité.
Tu veux que je te décrive c'était quoi mes attentes au début,
Ouais,
là,
c'est ça.
avant? Je pense que okay, ce que je m'attendais, c'était je m'attendais à ce qu'il y ait comme une hiérarchie beaucoup plus plate, si tu veux, ou moins de niveau hiérarchique. Je m'attendais aussi à ce que la collaboration soit beaucoup plus facile ou encouragée. Il y avait cette partie-là. Puis, je pense que je m'attendais, il y a aussi une partie attente avantages sociaux à cause que, tu sais, genre, j'avais entendu parler de rumeurs de lunch gratuit ou de bouffe gratuite, si tu veux. Donc, il y avait comme l'attente que ça soit, genre, un petit peu différent. Donc, c'était comme ça. Au niveau professionnel, genre, je m'attendais à ce que ça soit plus
OK.
collaboratif, moins compliqué, puis genre je m'attendais aussi à avoir plein d'avantages sociaux. Par rapport à la réalité, les avantages sociaux, je les ai eus. Genre, il y a beaucoup de trucs qui sont là pour les employés qui sont géniaux. Je vais rien dire contre ça. Puis je pense que ouais, aussi au niveau de mes attentes professionnelles, ce que je m'attendais pas, ce qui a vraiment dépassé, genre, toutes les attentes que j'aurais pu avoir, c'est la qualité des gens que j'allais rencontrer, si tu veux. Pas tout le monde, genre, mais les gens, genre, il y avait vraiment des gens vraiment intelligents, si tu veux. C'est difficile parce que, genre, je peux pas dire que c'était tous, genre, des astrophysiciens, genre. Je pense que les gens ont vraiment une intelligence émotionnelle, genre, qui fait que tu es capable d'avoir des relations qui sont quand même assez cool, genre, avec genre, beaucoup, beaucoup de gens. Évidemment, genre, il y a plein de monde qui travaille là-bas. Il y a comme 100 000 personnes, donc c'est pas tout le monde, mais je pense que quand j'ai commencé, puis je pense qu'aujourd'hui aussi, genre, l'intelligence des gens était quand même assez quelque chose qui était quand même assez spécial.
OK. Puis, est-ce que tu t'attends, dans le fond, tu parles que les gens sont émotionnellement, sont intelligents, tout ça. Comment ça s'est passé, ton introduction à ce milieu-là? Pour dire que les gens n'étaient pas intelligents, où est-ce que tu travaillais avant, là? Mais tu sais, comment ça t'as vécu cette espèce de transition-là? Qu'est-ce que ça t'a amené, toi, dans ton travail à toi?
Je pense que dans toutes les autres compagnies avant, j'avais vraiment mon rôle était vraiment beaucoup plus orienté avec une tâche précise. Je rentrais, puis j'avais comme ça à faire, j'avais comme une liste de trucs que je devais faire. Tandis que là, c'était beaucoup moins défini pour moi. Puis
Okay.
une partie de ma job, c'était vraiment genre de définir ça va être quoi ma job. C'était une grande partie de ma job. Puis ça, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit une aussi grande partie de ma job. C'était comme, OK, ben on t'a engagé, so you must know what you're here for, so you go do it now. J'étais comme, OK, ouais. Ça, c'était comme une surprise. Puis aussi, ça vient avec le fait qu'il n'y a pas de processus qui sont en place. Donc,
Ah ouais.
tu fais ce que tu veux comme tu le veux aussi. Ce qui était aussi genre quelque chose de complètement différent de ce que j'avais expérimenté avant.
OK, je pense que je comprends un peu. Je vis un peu la même chose dans mon travail présentement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions. Mais tu sais, je pense que c'est un stade aussi que plus on avance dans la carrière, plus on est comme laissé à nous-mêmes, puis genre, tu vas créer la valeur par toi-même. C'est un peu ce qui est attendu de ce genre de poste-là aussi. Tu sais, c'est comme, tu as un problème, c'est toi qu'il faut que tu trouves, à la limite, c'est toi qu'il faut que tu trouves le problème, puis tu trouves la solution qui va avec le problème aussi. Parce que quand on commence, c'est souvent, voici comment tu vas y arriver à la solution, là, puis fais les checklists, comme tu dis, là, tu sais, A, B, C, D. C'est intéressant de voir ça, que c'est peut-être associé à des rôles aussi plus d'expérience. Puis c'est ce qui fait aussi que. Quand on engage chez IA, c'est plus des gens plus seniors que juniors, parce qu'on sait que l'accompagnement qui est nécessaire pour les juniors sont quand même, c'est beaucoup de travail dans ces environnements-là, où est-ce que c'est hautement politique, relationnel, trouver des problèmes, trouver des solutions, là. Je comprends un peu ça. Par la suite, tu as passé quelques années là. Fast forward à il y a quelques mois, qu'est-ce qui est arrivé?
Ouais, il y a quelques mois, je pense que en ce moment, on est en avril 2023. Je pense que depuis novembre, octobre ou novembre, même septembre 2022, je pense que Meta, Facebook, était la première compagnie qui a fait des licenciements. Donc, je me suis fait licencier il y a 3 mois et quelques semaines, si tu veux. Je me suis levé un matin, puis en gros, mon accès à mon ordinateur de travail était comme restreint, puis j'ai eu une lettre envoyée dans mon courrier personnel qui me disait que mon poste avait été aboli. Donc,
Wow,
un petit choquant, si tu veux.
OK. Ouais.
Tu fais le tapis,
Ouais.
ça arrive.
Ben, je pense que, genre, ma première réaction, c'était un petit peu de paniquer, si tu veux, parce que c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Puis je pense que ça a pris quand même quelques jours slash semaines à pouvoir, genre, rationaliser la chose. Donc, genre, perdre son emploi, je pense pas que dans n'importe quelle circonstance, c'est cool quand tu t'y attendais pas, si tu veux. Donc, c'est plus l'élément de surprise qui m'avait fait un choc, si tu veux.
OK. Puis par rapport aux States, je pense qu'il y a eu beaucoup, comme tu dis, beaucoup de licenciements dans plusieurs compagnies de technologie. C'est quoi ton feeling par rapport à la suite des choses ou c'est quoi ton plan d'attaque pour la suite, là?
Mon plan d'attaque personnel ou genre tu me demandes comment est-ce que ça va se dérouler au niveau de
Plus pour toi,
l'industrie?
tu sais, nous autres, on le voit de l'extérieur, dans le fond, tu sais, on voit les choses passer. Moi, j'ai des contacts avec des gens aux États-Unis qui me disent justement que tu sais, c'est beaucoup plus facile d'engager les gens qu'il y a 2, 3 ans parce que justement, les gens se changent de compagnie, il y a des licenciements. Fait qu'il y a un pool de qualité, je pense, qui est disponible aux États-Unis. D'un autre côté, je me retourne de côté, puis moi, je sais que c'est difficile encore d'engager au Québec. Est-ce que ces gens-là vont arriver au Québec? Je ne sais pas. T'sais. Toi, ta mentalité par rapport à ça, c'est quoi que tu veux-tu rester aux États-Unis? Tu penses revenir au Québec? C'est quoi ton plan?
Je pense que le truc que ça m'a permis de réaliser ou de faire, c'est vraiment d'être beaucoup plus ouvert à toutes les possibilités qui étaient offertes ou dans le fond, qui étaient disponibles, dans le fond. Donc, je sais vraiment pas. Je parlais à des anciens collègues de chez Bell qui se sont partis en entreprise, si tu veux, puis on est restés amis, puis elles me parlaient de leur entreprise à Montréal. J'ai aussi parlé avec une ancienne amie, Pascal, qui travaille à Montréal en UX, a essayé d'apprendre ce que elle faisait. Donc, je pense que c'est dans ça, je pense que j'ai vraiment une plus grande ouverture d'esprit par rapport à avant, où est-ce que je voulais vraiment juste travailler en entreprise en tant que UX designer ou designer, si tu veux.
OK, cool. Puis si, mettons, ton Saint Graal, écoute, présentement, ce serait quoi la top compagnie quand tu regardais ton line-up pour aller aux États-Unis? Tu disais Google, c'était un parmi la liste. Est-ce qu'il y a un top à la liste? C'est qui que tu voudrais, chez qui tu voudrais travailler?
Je ne sais pas si j'ai des aspirations de travailler pour une certaine compagnie,
OK.
si tu veux, comme je l'avais avant. Je pense qu'il y a des trucs que j'aimerais vraiment faire. Puis, je pense pas que ce soit relié genre, à une certaine compagnie. J'ai fait des applications chez Ford parce que, genre, justement, le domaine de l'automobile, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. J'ai fait des applications chez Stellantis, qui est comme une compagnie d'automobile, si tu veux, qui est un agglomérat de manufacturiers, genre. Donc, il y a des trucs genre que ça me tentait de faire que je vais commencer genre, à explorer genre, s'il y a une possibilité de les faire. Peut-être que d'aller travailler à l'étranger, tu sais, genre, tu me dis que je suis déjà à l'étranger, mais les États-Unis puis le Canada, c'est quand même d'aller travailler vraiment genre, tu sais, dans un autre environnement, que ce soit en France, que ce soit même un truc comme Dubaï, genre, ça serait, tu sais, genre, j'ai vraiment l'esprit beaucoup plus. Plus ouvert, je pense, qu'avant.
OK, cool. Ben, regarde, ça fait le tour du temps qu'on avait aujourd'hui. Merci. Par contre, on va laisser le temps pour les rapid fire questions.
Oui,
Piou, piou,
piou, piou.
piou. Tu y vas,
C'est
Mylène? Tu me
parfait.
choisis une petite question?
Yes. Tu nous as parlé tantôt des rencontres à 20 $ avec Jacob Nielsen, mais sinon, est-ce qu'il y a une personnalité là, québécoise ou internationale qui t'inspire particulièrement?
N'importe qui,
Oh ouais, n'importe qui.
là. OK. Il y a un gars qui... Il y a un Québécois qui s'appelle Ralph Gilles. C'est un designer, mais c'est un designer d'automobile.
OK.
Puis c'est le chef designer pour Stellantis, comme je te disais, qui est dans le fond Fiat Chrysler. Je pense que c'est lui qui a dessiné genre la Viper, genre, la
OK.
Dodge Viper, si tu veux. Puis c'est un Québécois.
Ah
Donc,
ouais.
c'est sûr. Ouais, c'est un haïtien, genre de Montréal et tout, genre. Ça fait, ouais.
Cool, c'est le fun,
Excellent.
du monde québécois, on aime ça. Entendre parler d'eux autres.
J'aime ça. Ouais.
Étant quelqu'un qui a plein d'obsessions, c'est quoi ton obsession de designer?
Mon obsession de designer. Je sais pas si j'ai une obsession de design. J'aime la simplicité des choses, si tu veux. Genre, j'aime pas vraiment les designs, même les esthétiques qui sont trop chargées. Je sais pas si, genre, je suis un petit peu plus, genre, puriste ou genre épuré, si tu veux, mais. J'aime quand les choses sont plus simples que compliquées. Je pense que si tu regardes en ce moment, il y a beaucoup de designs genre qui sont un petit peu plus genre overblown, genre que ça soit au niveau genre
Ouais.
des couleurs, même au niveau des patterns, ou même au niveau de la répétition genre des fonds ou de la police. Tu vois, en ce moment, tu vois, je comprends plus
Ouais.
rien.
On est rendu trop vieux pour ça.
Ouais, c'est ça. Voilà,
Bah.
tiens.
Tantôt, tu disais que tu étais fan de cinéma là, quand tu étais jeune. C'était un bon endroit pour réunir avec les amis. Là, tu as un peu plus de temps, comme tu nous l'as dit en début de balado. Dernier film que tu as aimé au cinéma?
Dernier film que j'ai aimé au cinéma. Je vais dire le premier Black Panther de Marvel. Je sais pas comment il s'appelle le premier Black Panther, mais Black Panther le 1. Pas parce que c'est un film qui est genre, t'sais, genre super intellectuel, mais je pense que de voir Disney, qui était une compagnie genre. La compagnie qui est qualifiée justement de faire, de donner l'argent à un gars d'Oakland. Je ne sais pas si tu connais un petit peu le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, mais c'est un réalisateur vraiment genre fantastique. Donc Black Panther 2, Black Panther 1 et 2, genre, c'était vraiment pour moi mes coups de cœur.
Cool. Excellent.
Si tu n'étais pas un designer, qu'est-ce que tu ferais?
Si j'étais pas un designer, en fait, avant de devenir un designer, je voulais devenir ingénieur, donc peut-être que genre, je ferais ça.
C'est pas pire.
C'est une réponse qui revient souvent. OK, dernière question. Un produit ou un service sans lequel tu pourrais pas vivre?
Waze.
OK.
Oui, ça a toujours été pour moi la meilleure application d'un truc qui est crowdsourced. J'ai jamais vu quelque chose d'autre utiliser genre le pouvoir du crowd aussi mieux que oui. Genre, je trouve ça génial que ça me dise qu'il y a une police de cachet, genre dans le même.
Je pense cool, maintenant que c'est intégré à Google Maps. Là.
Ouais,
hein, c'est ça. Ouais, c'est assez impressionnant en effet.
Très drôle, parce que maintenant, on sait qu'on est en sécurité parce que la police a des places, c'est pour ça. On
est plus sûr. Ça.
Exact. On essaye toujours de terminer avec un conseil qu'on aimerait donner à un collègue designer, junior, senior, peu importe. Donc, si tu avais un conseil à donner à un designer ou une designer, qu'est-ce que ce serait?
C'est que le monde est ouvert à tout le monde, si tu veux, puis que de foncer, puis de pas hésiter à faire ce qui tente vraiment de faire et de pousser jusqu'à temps que tu puisses le faire. Donc, ouais.
Très bien. J'aime bien ça comme conseil. Patrice, merci beaucoup. S'il y en a qui veulent rentrer en contact avec toi ou te poser des questions, est-ce qu'il y a un moyen de te rejoindre si tu veux te faire rejoindre?
Oui, ben en fait, je suis sur LinkedIn. Si vous cherchez pour Patrice Leriston, c'est la meilleure façon de rentrer en contact. Puis je suis toujours ouvert à parler à des membres de la communauté du design. Bon.
Parfait. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, Mylène ou moi, Bertrand, vous pouvez nous rejoindre sur le courriel allo@dsgnqc.ca. Mon Dieu, je l'ai massacré. Hein. SGNQC.ca. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode. On vous encourage de vous abonner sur les balados ou les plateformes pour avoir les nouveaux épisodes, aussi de partager le balado dans votre réseau et surtout noter et commenter l'épisode sur les plateformes, donc que ce soit sur Spotify ou Apple Balado ou Google. Gênez-vous pas pour laisser un petit commentaire. Donc, ça va nous aider à rejoindre plus de designers du Québec et de l'extérieur. Donc, à vous remercier de votre temps de nous avoir écoutés. Merci Patrice, merci Mylène de votre temps. Et on se dit à la prochaine.
Merci.
À bientôt.
Bye.